Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 9. 200 $ par jour. Un fétiche aux époux Tilbury? Certes, le besoin s'en faisait sentir, et ne fût-ce que le bout de la corde qui aurait servi à pendre ce brigand de Bill Harwell, il serait le bienvenu. Or, ainsi que l'avait déclaré le magistrat de Great Salt Lake City, il fallait le prendre pour le pendre, et il ne semblait pas qu'il dût l'être de sitôt. Certes, ce fétiche, qui eût assuré à Herman Tilbury le gain de la partie, n'aurait pas été payé trop cher au prix des 3 000 $ qui lui avaient été volés à Cheap Hotel. Mais en attendant, le pavillon bleu ne possédait plus un cent, et furieux et non moins désappointé des réponses ironiques du shérif, il quitta le poste de police pour rejoindre Madame Tilbury. « Eh bien, Herman ?» lui demanda-t-elle. « Ce coquin, ce misérable Inglis !»« Il ne s'appelle pas Inglis, » répondit Monsieur Tilbury en tombant sur une chaise. « Il s'appelle Bill Harwell. »« Est-il arrêté ?»«
Il le sera. »«
Quand ?»«
Quand on aura pu mettre la main sur lui. »
Et notre argent, nos 3 000 $
Je n'en donnerai pas un demi-dollar.
Madame Tilbury s'écroula à son tour sur un fauteuil, en ruine. Cependant, comme cette maîtresse-femme avait la réaction prompte, elle se releva. Et lorsque son mari, au dernier degré de l'accablement, lui dit « Que faire ?»«
Attendre !»«
Attendre quoi ? Que ce bandit d'Harol... »
« Non, Herman, attendre le télégramme de maître Tom Brock, qui ne tardera pas, puis nous aviserons. »«
Et de l'argent ? Nous avons le temps d'en faire venir, quand bien même nous serions envoyés à l'extrémité des États-Unis. »«
Ce qui ne m'étonnerait pas, avec la déveine qui ne nous épargne guère. »«
Suis-moi, » répondit résolument Madame Tilbury. Et tous deux sortirent de l'hôtel afin de se rendre au bureau du télégraphe. Toute la ville, on le comprend, avait été mise au courant des mésaventures du couple Tilbury. Il est vrai, Great Salt Lake City ne semblait pas éprouver plus de sympathie pour eux que la bourgade de Calais, d'où ils arrivaient en droite ligne. Non seulement la sympathie faisait défaut, mais également la confiance. Qui eût jamais voulu tabler sur la chance de gens auxquels survenaient tant de choses désagréables? Des malchanceux, qui après 2 tirages n'étaient encore qu'à la 4e case. Des retardataires sur lesquels leurs concurrents avaient une telle avance et dont les parieurs ne voulaient plus même à 50-1. Si donc quelques personnes se trouvaient dans la salle du post-office lorsque le couple y parut, c'était uniquement des curieux, ou plutôt de mauvais plaisants, très disposés à rire du « bon dernier », locution par laquelle on désignait l'infortuné Tilbury. Mais des moqueries ne le touchaient point. Madame Tilbury, pas davantage. Il leur importait peu d'être bien ou mal coté chez les agences, et qui sait s'ils n'allaient pas se relever par un superbe coup. En effet, en étudiant sa carte, Madame Tilbury avait calculé que, si les dés amenaient par exemple le point de 10, comme il faudrait le doubler sur la 14e case occupée par l'Illinois, ce point les conduirait d'un bond à la 24e case, celle du Michigan, limitrophe de l'Illinois, ce qui les ramènerait vers Chicago. Ce serait, nul doute à cet égard, le coup le plus avantageux qu'ils pussent souhaiter. Se produirait-il ? À 9h47, avec une régularité automatique, le télégramme sortit de l'appareil. Ce point était désastreux. On ne l'a pas oublié ce jour-là, 2 juin. Max Real, alors près de sa mère à Chicago, l'avait aussitôt connu. Comme les jours suivants, il devait connaître les autres points qui envoyaient Awiste Kimball au North Dakota, Lisiwag au Missouri, et le commodore Hurricane au Wisconsin. En somme, si déplorable qu'il fût pour Herman Tilbury, il n'en était pas moins très singulier, et il fallait être l'objet d'une infernale déveine pour qu'il se fût produit. Qu'on en juge.
les dés avaient amené 5 par 2 et 3, point qui de la quatrième case aboutissait à la neuvième. Or, la neuvième étant une case de l'Illinois, il y avait lieu de le doubler, et la quatorzième étant encore illinoise, le tripler. Cela donnait en tout 15 points, qui conduisaient à la dix-neuvième case. Louisiane, Nouvelle-Orléans, marquée comme hôtellerie sur la carte de William T. Hyperbone. En vérité, impossible d'être plus malheureux. Monsieur et Madame Tilbury rentrèrent à l'hôtel, au milieu des plaisanteries des assistants, avec la démarche de gens qui ont reçu un formidable coup de massue sur le crâne. Mais Madame Tilbury avait la tête plus solide que son mari, et ne resta pas, comme lui, assommée sur place. « À la Louisiane ! À la Nouvelle-Orléans ! » répétait Monsieur Tilbury en s'arrachant les cheveux. « Ah, pourquoi avons-nous été assez niais pour courir ainsi ?»«
Et nous courrons encore !»
déclara Madame Tilbury en se croisant les bras.
« Quoi ? Tu songes à partir pour la Louisiane ? Mais c'est au moins 1 300 000, ça fait.
Nous les ferons.
Mais nous aurons à payer une prime de $1 000. Nous la paierons. Mais nous aurons à rester 2 coups sans jouer. Nous ne les jouerons pas. Mais il y aura une 40aine de jours à passer dans cette ville, où la vie est hors de prix, paraît-il.
Nous les y passerons.
Mais nous n'avons plus d'argent.
Nous en ferons venir.
Mais je ne veux pas.
Et moi je veux. On le voit, Kate Tilbury avait réponse à tout. Il y avait certainement en elle un fond de vieille joueuse qui prenait le dessus. Et puis, le mirage des millions de dollars, lequel l'attirait, la fascinait, l'hypnotisait. Herman Tilbury n'essaya pas de résister. Il en aurait été pour ses peines. À tout prendre, les conséquences qu'il avait déduites de ce coup malencontreux n'étaient que trop justes. Un long et dispendieux voyage, la Confédération tout entière à traverser du nord-est au sud-ouest, la cherté de la vie dans cette opulente et ruineuse cité de la Nouvelle-Orléans, le temps qu'il y faudrait séjourner, puisque la règle obligeait d'attendre 2 tirages avant d'être autorisé à rentrer dans la partie, ainsi qu'il le fit observer. « Peut-être, répondit Madame Tilbury, car le hasard peut y envoyer un de nos partenaires, et dans ce cas nous irions le remplacer. »«
Et lesquels ? » s'écria Monsieur Tilbury, « puisqu'ils sont tous en avant de nous. »
Et pourquoi ne serait-il pas obligé de rétrograder, après avoir dépassé le but, et de recommencer la partie comme cet abominable Ewican? Sans doute, le cas pouvait se produire. Il est vrai, le couple chicagois avait si peu de chance.
Et puis, ajouta M. Tilbury, pour comble de malheur, voilà que nous n'avons pas le droit de choisir l'hôtel où il nous conviendrait de descendre.
Effectivement, après les mots « case 19e, Louisiane, Nouvelle-Orléans », le malencontreux télégramme portait ceci « Excelsior Hotel ». Il n'y avait pas à discuter. Que cet hôtel fût de 1er ou de 20e ordre, c'était celui qu'imposait la volonté de l'impérieux défunt.
« Nous irons à Excelsior Hotel, voilà tout !»
se contenta de répondre Madame Tilbury. Telle était cette femme, aussi résolue qu'avare. Mais ce qu'elle devait souffrir en songeant aux pertes déjà subies, les $300 d'amende, les $3 000 du vol, les dépenses effectuées jusqu'à ce jour, celles qu'imposait le présent, celles que réservait l'avenir. Seulement, l'héritage miroitait devant ses yeux, au point de l'aveugler. Il va sans dire que le temps ne ferait pas défaut au troisième partenaire pour se rendre à son poste. 45 jours. On était au 2 juin, et il suffirait que le pavillon vert fût déployé à la date du 15 juillet dans la métropole de la Louisiane. Toutefois, ainsi que l'observa Madame Tilbury, un autre des 7 pouvait y être envoyé d'un jour à l'autre, d'où nécessité de se trouver alors à la 19e case afin de lui céder la place. Donc, mieux valait ne point perdre son temps à Great Salt Lake City. Aussi fut-il décidé que les Tidbury se mettraient en route dès que serait arrivé l'argent demandé par télégramme à Fint National Bank de Chicago, Dearborn and Morrow Street, où M. Tidbury avait un compte courant. Cette opération ne prit que 2 jours. Le 4 juin, dans la matinée, M. Tidbury put toucher à la banque de Great Salt Lake City $5,000, qui, hélas, ne devait plus produire d'intérêt. Le 5 juin, M. et Mme Tidbury quittèrent Great Salt Lake City au milieu de l'indifférence générale, et, par malheur, sans emporter le bout de corde qui lui aurait peut-être ramené la veine, si Bill Howell eût été pendu. Ce fut l'Union Pacific, décidément très utilisée par les partenaires du match Hyperbonne, qui les transporta à travers le Wyoming jusqu'à Cheyenne et à travers le Nebraska jusqu'à Omaha City. Là, par mesure d'économie, les frais étant moins élevés en steamboat qu'en railroad, les voyageurs gagnèrent par le Missouri la ville de Kansas, ainsi que l'avait fait Max Real lors de son premier déplacement. Puis de Kansas, ils atteignirent Saint-Louis, où Lissiwag et Jovita Foley ne tarderaient pas à prendre gîte afin d'y purger leur temps de prison. Entrés dans les eaux du Mississippi en abandonnant celle du Missouri, qui est son principal tributaire, cela s'effectua par un simple transbordement. Les bateaux à vapeur sont nombreux sur ces fleuves, et à la condition de s'accommoder de la dernière classe, on peut voyager à des prix très restreints. De plus, en se pourvoyant de comestibles à bon marché, faciles à renouveler aux escales, il est facile de diminuer encore les dépenses quotidiennes. Et c'est bien ce que firent M. et Mme Tidbury, liardant le plus possible en prévision des futures notes d'un séjour long, peut-être, à Excelsior Hotel de la Nouvelle-Orléans. Donc, le steamboat Black Warrior reçut à son bord les 2 époux qu'il devait transporter à la métropole louisianaise. Il n'y avait qu'à suivre le cours du Père des Eaux, entre les États de l'Illinois, du Missouri, de l'Arkansas, du Tennessee, du Mississippi et de la Louisiane, auxquels ce grand fleuve donne une frontière plus naturelle que ses degrés de longitude ou de latitude affectés à leurs autres limites géodésiques. Il n'est pas étonnant que cette superbe artère, dont la longueur dépasse 4500 miles, ait reçu des dénominations successives. Mississippi, c'est-à-dire Grande Eau en langue algonquine, puis Rio del Espíritu Santo, par les Espagnols, puis Colbert, au milieu du XVIIe siècle, par Cavelier de la Salle, puis Buad, par l'explorateur Joliet, et enfin, qu'elle soit devenue le Mezcacebé sous la plume poétique de Chateaubriand. Du reste, cette série de noms, remplacée par celui de Mississippi, n'a qu'un intérêt purement géographique, dont ne se préoccupaient guère les Tidbury, pas plus que de l'étendue de son bassin, bien qu'il comprenne 3 211 000 km². L'essentiel était qu'il les conduisit économiquement là où ils devaient aller. Ce trajet, d'ailleurs, n'offrirait aucun obstacle. Ce qu'on appelle le Mississippi industriel, déjà grossi de nombreux affluents, Minnesota, Cedar, Turkey, Iowa, Sainte-Croix, Chippewa, Wisconsin, commence en amont de Saint-Louis, dans le Minnesota, en aval des retentissantes chutes de Saint-Antoine. C'est à Saint-Louis même que sont jetés les 2 derniers ponts qui mettent en communication sa rive droite et sa rive gauche, après un cours de 1 200 miles. En suivant la frontière de l'Illinois, le Black Warrior longea de hautes falaises calcaires, élevées d'une 60aine de toises. D'un côté, les dernières ramifications des monts Ozarks, de l'autre, les dernières collines de la campagne illinoise. L'aspect changea complètement à partir de Cairo. ce fut celui de l'immense plaine alluviale, à travers laquelle l'un des grands tributaires du Mississippi, l'Ohio, lui verse des masses d'eau considérables. Cependant, malgré cet apport, et au-dessous ceux de l'Arkansas et de la rivière Rouge, le débit du fleuve est moindre à la Nouvelle-Orléans qu'à Saint-Louis, c'est-à-dire à son embouchure sur le golfe du Mexique. Cela tient à ce que son trop-plein s'écoule latéralement par les bayous avoisinant ses rives basses. C'est ainsi qu'est presque entièrement inondé le Sunk Country, le pays effondré, région spacieuse à l'ouest du fleuve, creusée de lagunes, recouverte de marécages, sillonnée d'eaux lentes ou stagnantes, et qui semble s'être affaissée lors du tremblement de terre de 1812. Le Black Warrior, adroitement et prudemment manœuvré, se glissait entre de nombreuses îles peu stables qui se déforment ou se déplacent, emportées aux caprices des crues et des courants, ou créées en quelques mois par un barrage qui a retenu les sables et les terres. Aussi, la navigation du Mississippi ne s'accomplit-elle pas sans grande difficulté, dont se tirent avec bonheur les habiles pilotes de la Louisiane. C'est ainsi que les Tilbury passèrent par Memphis, cette importante ville du Tennessee, où les curieux avaient pu, pendant quelques heures, contempler Tom Crabb pendant son premier voyage. Puis ce fut Helena, sur une pente de colline, bourg qui deviendra ville, sans doute, car les steamboats y font fréquemment escale. Puis ce fut, sur la rive droite, l'embouchure de l'Arkansas, laissée en arrière, une autre contrée de bayous et de marécages, au sol mobile, où disparut un jour le village de Napoléon. Puis, si le Black Warrior ne fit pas halte à Vicksburg, l'une des rares villes industrielles du Mississippi, c'est que l'infidèle fleuve, à la suite d'une grande crue, s'est détourné d'elle quelques milles plus au sud. Toutefois, le steamboat stationna une heure à Natchez, dont le commerce emploie une batellerie nombreuse qui dessert toute la région. Le Mississippi devint alors plus capricieux, multipliant ses lacets, ses détours, ses méandres, revenant sur lui-même, si bien qu'à regarder la carte, on dirait un grouillement d'anguillules autour de la mer Anguille. Ses rives incultes, de plus en plus basses, se confondant avec la plaine alluvionnaire, ne présentaient que des bancs de sable et des berges à grands roseaux rongés par les courants. Enfin, à 300 milles de la mer, le Black Warrior dépassa l'embouchure de la rivière Rouge, à l'angle par lequel se touchent les deux États, près de Fort Adam, et pénétra sur le territoire de la Louisiane. Là, grondent et bouillonnent de tumultueux rapides, car la largeur du fleuve a toujours diminué jusqu'à son delta depuis Cairo. Mais, comme l'étiage des eaux atteignait alors sa hauteur moyenne, le Black Warrior put les franchir sans trop de risque de s'engraver. Après Natchez, on ne trouve plus de ville de quelque importance avant la Nouvelle-Orléans, si ce n'est Baton Rouge, et encore, n'est-ce à vrai dire qu'une grosse bourgade de 10 500 habitants. Mais là est le siège de la législature de l'État, la capitale parlementaire de la Louisiane, dont, comme tant d'autres grandes cités de l'Union, la Nouvelle-Orléans n'est que la métropole. Baton Rouge est situé d'ailleurs dans une position agréable et salubre, ce qui n'est point à dédaigner en des régions que ravagent trop souvent les épidémies de fièvre jaune. Enfin, après Donaldsonville, il n'y eut plus que des hameaux, à vrai dire, une succession de villas, de cottages, qui bordent les deux rives du grand fleuve américain jusqu'à son contact avec la Nouvelle-Orléans. La Louisiane, que le premier empire vendit 20 millions de francs aux Américains, ne tient que le 30e rang parmi les États de la République fédérale. Mais sa population, noire en majorité, dépasse 1 100 000 âmes. Il a fallu la défendre contre les crues du Mississippi par de solides levées dans sa partie basse, où la fabrication du sucre est si considérable que sous ce rapport, elle tient la tête de cette fabrication. Au nord-ouest, arrosée par la rivière Rouge et ses affluents, les terres plus élevées sont à l'abri des inondations et se prêtent à toutes les exigences de l'agriculture. La Louisiane produit aussi du fer, du charbon, de l'ocre, du gypse. Les champs de canne, les plantations d'orangers, de citronniers, de limoniers y abondent. Elles possèdent encore de vastes forêts impénétrables, asiles des ours, des panthères, des chats sauvages, et tout un réseau de creeks fréquentés par les alligators. La Nouvelle-Orléans reçut enfin le couple Tidbury le 9 juin au soir, après un voyage de 7 jours depuis le départ de Great Salt Lake City. Entre-temps, avaient été proclamés les tirages des 4, 6 et 8 juin concernant Awiste Kimball, Lissy Wag et Hodge Hurricane. Il n'était pas de nature à améliorer la situation d'Herman Tidbury puisqu'il ne lui envoyait point un remplaçant à l'hôtellerie de la 19e case. Ah, s'il n'avait pas été dans l'obligation de se rendre dans cette ruineuse cité, d'y séjourner 6 semaines, peut-être, à 7 jours de là, l'aidé l'aurait-il gratifié d'un nombre de points plus favorable, et il eût pu se mettre en ligne avec les plus avancés de ses partenaires. Au sortir du débarcadère, M. et Mme Tilbury aperçurent une voiture superbement attelée, qui attendait sans doute quelques passagers du Black Warrior. Eux n'avaient qu'à se rendre pédestrement, en faisant porter des bagages par un commissionnaire à Excelsior Hotel. Aussi que l'on imagine leur surprise, surprise à laquelle se joignit un serrement de cœur, lorsque s'approcha un valet de pied, nègre du plus beau noir, qui leur dit « Mr. et Mrs. Tidbury, je pense ?» « Eux-mêmes, » répondit M. Tidbury. Allons, les journaux avaient dû annoncer leur départ de l'Utah, leur passage à Omaha, leur navigation à bord du Black Warrior, leur arrivée imminente à la Nouvelle-Orléans. Eux, qui espéraient bien ne pas être si attendus que cela, ne pourraient-ils donc échapper aux inconvénients toujours coûteux de la célébrité ? « Et que nous voulez-vous ? » demanda M. Tidbury d'un ton rébarbatif. « Cet équipage est à votre disposition. »«
Nous n'avons pas commandé d'équipage. »«
On ne va pas autrement à Excelsior Hotel, » répondit le nègre du plus beau noir en s'inclinant. « Cela commence bien, » murmura M. Tidbury avec un gros soupir. « Enfin, puisqu'il n'était pas d'usage de se transporter d'une façon plus simple à l'hôtel désigné, le mieux était de monter dans ce superbe landau. Le couple y prit place, tandis qu'un omnibus se chargeait de la valise et du sac. Arrivé à Canal Street, devant un bel édifice, un palais à vrai dire, au fronton duquel brillaient ces mots « Excelsior Hotel Company Limited » et dont le hall resplendissait de lumière, la voiture s'arrêta et le valet de pied se hâta d'en ouvrir la portière. Du reste, les Tidbury, très fatigués, très ahuris, se rendirent à peine compte de la cérémonieuse réception qui leur fut faite par le personnel de l'hôtel. Un majordome, en habit noir, les conduisit à leur appartement. Absolument éblouis, les yeux hagards, ils ne virent rien des magnificences qui les entouraient et remirent au lendemain les réflexions que devait leur inspirer un si extraordinaire apparat. Le matin, après une nuit passée dans le calme de cette confortable chambre, protégée par de doubles fenêtres qui ne laissaient point s'introduire les bruits de la rue, ils se réveillèrent sous la douce clarté d'une veilleuse alimentée aux sources de l'électricité de l'hôtel. Le cadran transparent d'une pendule de grand prix marquait 8 heures. À portée de la main, au chevet du vaste lit où tous deux avaient si tranquillement reposé, une série de boutons n'attendait que la pression du doigt pour appeler la femme de chambre ou le valet de chambre. D'autres boutons commandaient le bain, le premier déjeuner, les journaux du matin, et ce que devaient réclamer des voyageurs pressés de se lever, la lumière du jour. C'est sur ce bouton spécial que s'appuya l'index crochu de Madame Tilbury. Aussitôt, les épais stores des fenêtres de remonter mécaniquement, les persiennes de se rabattre à l'extérieur, les rayons du soleil de pénétrer à flot dans la chambre. Monsieur et Madame Tilbury se regardèrent. Ils n'osaient prononcer une seule parole, se demandant si chaque phrase n'allait pas leur coûter une piastre le mot. Le luxe de la chambre était insensé. Tout d'une incomparable richesse, meubles, tentures, tapis, capitonnage des murs en soie brochée. Le couple se leva, passa dans un cabinet voisin du plus étonnant confort. Les toilettes, avec leurs robinets d'eau chaude, tiède ou froide à volonté, les pulvérisateurs prêts à lancer leurs gouttelettes parfumées, les savons aux couleurs et aux odeurs variées, les éponges d'une douceur exceptionnelle, les serviettes d'une blancheur de neige. Dès qu'ils furent habillés, les Tilbury s'aventurèrent à travers les pièces contiguës. Un appartement complet. La salle à manger, dont la table est tincelée d'argenterie et de porcelaine. Le salon de réception, mobilier d'un luxe inouï, lustres, appliques, tableaux de maître, bronze d'art, rideaux de lampas frappés d'or. Le boudoir de madame, piano avec partition, table avec romans en vogue et album de photographies louisianaises. Le cabinet de monsieur, où s'empilaient les revues américaines, les journaux les plus répandus de l'Union, puis toute une papeterie de choix à l'entête de l'hôtel, et même une petite machine à écrire, dont le clavier était prêt à fonctionner sous le doigt du voyageur. « C'est la caverne d'Ali Baba !» s'écria Madame Tilbury, absolument fascinée. « Et les 40 voleurs ne sont pas loin !» ajouta Monsieur Tilbury. « Et à tout le moins une centaine !» À ce moment, ses yeux se portèrent sur une pancarte affichée dans un cadre doré avec la nomenclature des divers services de l'hôtel. L'heure des repas, pour ceux qui préféraient ne point se faire servir dans leurs appartements. Celui qui avait été attribué au quatrième partenaire était désigné sous le numéro 1, avec cette mention « Réservé aux partenaires du match Hyperbonne par Excelsior Hotel Company ». Sonne, Herman !» se contenta de dire Madame Tilbury. Le bouton pressé, un gentleman, habit noir et cravate blanche, se présenta à la porte du salon. Et tout d'abord, en termes choisis, il offrit aux deux époux les compliments de la société d'Excelsior Hotel et de son directeur, honoré d'avoir pour hôte un des plus sympathiques tenants de la grande partie nationale. Puisqu'il avait quelque temps à passer en Louisiane, et plus spécialement à la Nouvelle-Orléans avec son honorable épouse, on s'ingénierait à les entourer de toute la confortabilité possible, comme à leur multiplier les distractions. Quant au régime de l'hôtel, s'il leur convenait de s'y conformer, il comportait le thé du matin à 8 heures, le déjeuner à 11, le lunch à 4, le dîner à 7, le thé du soir à 10. Cuisine anglaise, américaine ou française au choix. Vin des premiers crus d'outre-mer. Toute la journée, un équipage à la disposition du grand banquier de Chicago, Chic. Un élégant steam yacht, toujours sous vapeur pour excursion jusqu'à l'embouchure du Mississippi, ou promenade sur le lac Borgne ou le lac Pontchartrain. Une loge à l'opéra, desservie à cette époque par une troupe française de la plus haute valeur. « Combien ?» demanda brusquement Madame Tilbury. « 100 $. »«
Par mois ?»«
Par jour. » »«
Et par personne, sans doute ?»
ajouta Madame Tilbury d'un ton où l'ironie le disputait à la colère. « Oui, madame, et ces prix ont été établis dans les conditions les plus acceptables, dès que les journaux nous ont appris que le troisième partenaire, et Mistress Tidbury, allait séjourner quelque temps à Excelsior Hotel. Voilà où sa mauvaise chance avait conduit le couple infortuné, et il ne pouvait aller ailleurs. Et Madame Tidbury n'avait même pas la ressource de transporter sa personne dans une humble auberge. C'était l'hôtel imposé par William J. Hyperbone, et qu'on n'en soit pas surpris, puisqu'il en était un des principaux actionnaires. Oui, $200 pour le couple, $6,000 pour 30 jours, s'il restait le mois entier dans cette caverne. Or, il fallait, bon gré mal gré, se soumettre. Abandonner Excelsior Hotel, c'eût été abandonner la partie, dont les règles ne souffraient aucune discussion. C'eût été renoncer à tout espoir de rentrer, et des millions de fois au-delà, dans ses dépenses, en héritant de la fortune du défunt. Et pourtant, dès que le majordome se fut retiré, « En route !» s'écria M. Tidbury. « Reprenons notre valise et retournons à Chicago. Je ne resterai pas une minute de plus ici. À $8 l'heure !»« Si !» répondit l'impérieuse matrone. La cité du Croissant, ainsi appelle-t-on la métropole louisianaise, fondée en 1717 dans la courbe du grand fleuve qui la limite au sud, absorbe, on peut le dire, toute la Louisiane. À peine d'autres villes, Baton Rouge, Donaldsonville, Shreveport, comptent-elles plus de 11 à 12 000 âmes. Située à 574 lieues de New York et à 45 de l'embouchure du Mississippi, 9 railroads y aboutissent et 1500 steamboats parcourent son réseau fluvial. Gagnée à la cause des Confédérés, le 18 avril 1862, elle fut bombardée pendant 6 jours par l'amiral Farragut et prise par le général Butler. C'est dans cette vaste cité de 242 000 habitants, très diversifiée par les mélanges de sang, où les Noirs, s'ils jouissent de tous les droits politiques, n'ont pas l'égalité sociale, c'est dans ce milieu hybride de Français, d'Espagnols, d'Anglais, d'Anglo-Américains, en pleine métropole d'un État qui nomme 32 sénateurs, 97 députés et se fait représenter par 4 membres au Congrès, où se trouve le siège d'un évêque catholique, au milieu des dissidents baptistes, méthodistes, épiscopaux. C'est dans ce cœur de la Louisiane qu'allait mener une existence telle qu'il ne l'aurait pu même imaginer, ce ménage Tidbury, si invraisemblablement arraché de sa maison chicagoise. Mais, puisqu'un mauvais sort l'y obligeait, le mieux, à moins de s'en retourner chez soi, n'était-il pas d'en avoir pour son argent ? Ainsi raisonnait la dame. Donc, chaque jour, leur magnifique équipage vint les promener en grande pompe. Une bande criarde les accompagnait de ses hurrahs moqueurs, car on les connaissait pour de fiefés avares, qui n'avaient inspiré aucune sympathie, ni à Great Salt Lake City, ni à Calais, pas plus qu'ils n'en inspiraient à Chicago. Qu'importait, ils ne s'en apercevaient même pas, et rien ne les empêchait, malgré tant de déconvenues, de se croire les grands favoris du match. C'est ainsi qu'ils s'exhibèrent à travers les wards du Nord, les faubourgs de Lafayette, de Jefferson, de Carrollton, ces quartiers élégants où resplendissent les hôtels, les villas, les cottages, encorbeillés dans la verdure des orangers, des magnolias et autres arbres en pleine floraison, à la place Lafayette, à la place Jackson. C'est ainsi qu'ils se promenèrent sur la solide levée, large de 50 toises, qui protège la ville contre les inondations, sur les quais bordés d'un quadruple rang de steamers, de steamboats, de remorqueurs, de voiliers, de caboteurs, d'où s'expédient par année jusqu'à 1 700 000 balles de coton. Qu'on ne s'en étonne pas, puisque le mouvement commercial de la Nouvelle-Orléans se chiffre par 200 millions de dollars. C'est ainsi qu'on les vit aux annexes d'Algier, de Gretna, de Magdaronville, après s'être fait transporter sur la rive gauche du fleuve, là où sont plus particulièrement établies les usines, les fabriques et les entrepôts. C'est ainsi qu'ils se firent véhiculer dans leurs fastueuses voitures, le long des rues élégantes, bordées de maisons de briques et de pierres, qui se sont substituées aux maisons de bois détruites par tant d'incendies, et le plus souvent dans la rue Royale et la rue Saint-Louis, qui coupent en croix le quartier français. Et là, quelles charmantes habitations aux vertes persiennes, avec leurs cours où murmurent les jets d'eau des bassins, où fleurissent les caisses de belles plantes. C'est ainsi qu'ils honorèrent de leur visite le Capitole, à l'angle des rues Royales et Saint-Louis, un ancien édifice transformé pendant la guerre de Sécession en palais législatif, où fonctionnent les chambres des sénateurs et des députés. Mais ils n'eurent jamais pour l'hôtel Saint-Charles, l'un des plus importants de la ville, qu'un dédain bien justifié chez des hôtes de l'incomparable Excelsior Hôtel. C'est ainsi qu'ils visitèrent le très architectural palais de l'université, la cathédrale de style gothique, le bâtiment de la douane, la rotonde et son immense salle. C'est là que le lecteur trouve un cabinet de lecture des mieux assortis. Le flâneur, un promenoir aménagé sous des galeries couvertes. Les spéculateurs sur les valeurs et les fonds publics, une bourse très animée, dans laquelle s'agitaient fiévreusement les courtiers des agences, en criant les cours si variables de la côte hyperbonne. C'est ainsi qu'ils excursionnèrent, à bord de leur élégant steam yacht, sur les eaux calmes du lac Pontchartrain et jusque dans les passes du Mississippi. C'est à l'opéra, enfin, que les amateurs des grandes œuvres lyriques les virent se prélasser dans la loge mise à leur disposition, et tendre désespérément aux accords de l'orchestre leurs oreilles fermées à toute compréhension musicale. Ainsi vécurent-ils comme dans un rêve, mais quel réveil lorsqu'ils retomberaient dans la réalité. D'ailleurs, un singulier phénomène s'était produit. Oui, ces ladres, ces pingres, ces liardeurs se firent à cette nouvelle existence. Ils furent étourdis par cette situation anormale. Ils se grisèrent, au sens physique du mot, devant cette table toujours luxueusement servie et dont ils ne voulaient pas laisser miette au risque de se préparer des gastralgies ou des dilatations d'estomac pour leurs vieux jours. Mais il fallait s'en donner pour les $200 quotidiens d'Excelsior Hotel. Cependant, le temps s'écoulait, bien que les Tilbury ne s'en rendissent que très imparfaitement compte. Puisque leur séjour à l'hôtellerie ne semblait pas devoir être interrompu, 14 coups allaient être tirés à Chicago avant qu'ils eussent le droit de se remettre en route. De 48 heures en 48 heures, ces tirages étaient proclamés à la rotonde comme ils venaient de l'être à l'auditorium. Celui du 8 juin, on le sait, avait envoyé le commodore Hodge Hurricane au Wisconsin. On sait également que celui du 10 avait envoyé le mystérieux XKZ au Minnesota. Aucun n'avait désigné la Louisiane, ni celui du 12 concernant Max Real, ni celui du 14 concernant Tom Queb. Aussi, le 16, date réservée à Herman Tilbury, avant que la malchance l'eût consigné dans la 19e case, aucun tirage ne fut-il effectué. Le 18, ce fut pour le 4e partenaire, Awist et Kimball, que maître Thornbrock avait fait rouler les dés sur la table de l'auditorium. Les deux époux étaient-ils donc condamnés à mener cette existence, aussi agréable que ruineuse pour la bourse et la santé, pendant les 6 semaines d'exclusion qu'entraînait le séjour dans l'état de la Louisiane? Et même avant qu'ils eussent pu rentrer dans la partie, celle-ci n'aurait-elle pas pris fin? Et le gagnant ne serait-il pas arrivé à la 63e case? Cela, c'était le secret de l'avenir. En attendant, les jours s'écoulaient, et si le match terminé, monsieur et madame Tilbury n'avaient plus qu'à retourner dans l'Illinois, après avoir payé la formidable note d'Excelsior Hotel, jointe aux dépenses antérieures, songe-t-on à ce que leur aurait coûté cette folie de figurer parmi les sept du match Hyperbonne. Chapitre 10. Les pérégrinations d'Awist et Kimball. Si les époux Tilbury, si le commodore Hurricane ne se plaignaient pas sans raison de la déveine qui s'attachait à leur personne, il semble bien que le reporter en chef de la tribune aurait eu, lui aussi, le droit de se plaindre dans une certaine mesure. Une première fois, le coup de dé du début l'avait obligé d'aller au pont du Niagara, état de New York, et d'y payer une prime, puis de là à Santa Fe, la capitale du New Mexico. Et voici que ce nouveau coup le mettait en demeure de gagner d'abord le Nebraska et ensuite l'état de Washington, situé à l'extrémité ouest du territoire de la Confédération. En effet, à Charleston de la Caroline du Sud, où il venait d'être si chaleureusement accueilli, Awist et Kimball avait reçu, le 4 juin, le télégramme qui le concernait. Le point de 10 par 6 et 4, redoublé, l'expédiait de la 22e case à la 42e. Cette dernière, c'était celle du Nebraska, choisie par le défunt pour le labyrinthe du noble jeu de loi. Or, ce qui ne laissait pas d'être grave, c'est que le partenaire, après s'y être rendu et avoir payé une double prime, devrait rétrograder à la 30e, occupé par l'État de Washington. Il est vrai, cet itinéraire du South Carolina au Washington passait par le Nebraska. On le comprend, à l'annonce de ce coup, ses partisans, réunis en grand nombre au post-office de Charleston, furent atterrés, et le reporter se vit au moment de perdre la situation de grand favori que la plupart des agences lui attribuaient. Un peu légèrement, il faut en convenir. Mais cet homme, aussi débrouillard que résolu, eut bientôt rassuré ceux qui s'attachaient à sa fortune. « Eh, mes amis, s'écria-t-il, ne vous désespérez pas. Vous savez que les longs voyages ne me font pas peur. De Charleston au Nebraska, du Nebraska au Washington, c'est l'affaire de deux enjambées, et j'ai 15 jours, du 4 au 18, pour enlever ces 4000 miles. Des Wellwoods, j'en aurai tout le temps à ma disposition. Quant à la prime à payer, cela regarde le caissier de la tribune, et tant pis pour lui s'il fait la grimace. Le désagrément, ce n'est point d'aller du Nebraska à Washington, c'est d'avoir à revenir de la 42e case à la 30e. Bah, rétrograder de 12 points, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Et j'aurai vite rattrapé ce que le dieu du hasard m'aura fait perdre. Comment ne pas avoir une absolue confiance en l'homme qui se montre si confiant? Comment hésiter à risquer sur lui des sommes énormes? Comment lui marchander les applaudissements qu'il mérite à si juste titre? Aussi ne lui furent-ils point épargnés, et cette matinée vit se renouveler les triomphes de la veille à ce fameux banquet d'Ashley, où avait figuré le pâté monstre de 8000 livres qui avait occasionné 1577 indigestions dans la grande métropole. Toutefois, Awist et Kimball faisaient erreur en affirmant que l'on pouvait aller de Charleston à Olympia, cette capitale du Washington, que désignait la dépêche, en combinant toutes les ressources du réseau fédéral. Non, il existait une solution de continuité, et elle devait lui être signalée par Bruman S. Bicorne, le secrétaire de la rédaction de la Tribune. Mais la moitié du voyage jusqu'au Nebraska s'accomplirait rapidement par les voies ferrées qui venaient s'amorcer à la ligne de l'Union Pacific. Néanmoins, il n'y avait pas de temps à perdre, eu égard au retard possible, ni lieu de flâner en route. Non. Ce qui était sage, c'était de quitter Charleston le soir même. Et c'est ce que fit le pavillon vert. Ses enthousiastes partisans l'acclamèrent au moment où le train démarra pour s'élancer à travers les plaines de la Caroline du Sud. Cette première partie de l'itinéraire, plusieurs des sept l'avaient déjà suivie lorsqu'ils parcouraient ces territoires, et ils la suivraient sans doute encore. Awish de Kimball franchit le Tennessee et le 5 au soir atteignit Saint-Louis du Missouri, où Lissiwag et Jovita Foley allaient trouver une prison. Puis, craignant de perdre trop de temps à remonter en steamboat jusqu'à Omaha, il combina les horaires de manière à profiter des trains les plus rapides pour gagner, par Kansas City, la métropole du Nebraska, où il arriva le 6 dans la soirée. Cette nuit, il dut la passer tout entière en cette ville d'Omaha, à laquelle Max Real, lors de son premier voyage, avait pu consacrer quelques heures. Ce fut là que lui parvint la dépêche lancée à son adresse par le secrétaire de la rédaction de la Tribune. Cette dépêche lui chiffrait jour par jour les étapes, de telle façon qu'il put être rendu à Olympia du Washington le 18 avant midi. Voici ce qu'elle marquait. Premièrement, quitter Omaha City dès le matin du 7 courant par le train de l'Union Pacific de 8h35 pour atteindre, à 390 miles de là, Julesburg Junction, dans la soirée à 6h30. Deuxièmement, là, trouver un stage, tout attelé, muni de provisions avec relais préparé sur la route de 100 miles qui aboutit aux mauvaises terres du Nebraska. Y arriver le lendemain dans la matinée, y faire constater sa présence et revenir par le stage à Julesburg. Troisièmement, reprendre à Julesburg, dans la soirée du 10, le train qui se dirige vers la Californie par l'Union et le Southern Pacific, lequel déposera Harris T. Kimball en gare de Sacramento dans la soirée du 12, et il devra passer la nuit dans cette ville. Quatrièmement, le lendemain, 13, sauter dans le Railroad qui remonte vers le nord et s'arrêter à la station de Shasta, de la Haute-Californie, à 300 miles de Sacramento. Des travaux de réfection interrompant la circulation jusqu'à la station de Roseburg de l'Oregon. Cinquièmement, en ce pays montagneux où les stages ne peuvent circuler que lentement, faire à cheval ce trajet de 240 miles afin d'arriver, le 17 au plus tard, à la station de Roseburg, voyage qui devra s'exécuter en 4 jours à raison de 25 lieues par 24 heures, repos compris. Sixièmement, prendre dans l'après-midi du 17 à Roseburg le train pour Olympia, qui arrive le lendemain matin dans cette ville après un trajet de 350 miles. Nota. Awis T. Kimball est prié de ne rien perdre du temps qui lui est strictement mesuré et de ne pas oublier que de grosses sommes sont engagées au journal sur les chances du pavillon vert. La dépêche était longue, mais claire, explicite, formelle. Le destinataire n'avait qu'à se conformer à ses prescriptions et il serait à son poste, le jour dit, pour recevoir celle de son quatrième tirage. Il fallait espérer, d'ailleurs, qu'il ne se produirait aucun retard, car, ne fût-il que d'une demi-journée, il suffirait à compromettre le résultat du voyage. Que l'on se rassure, Awis T. Kimball était résolu à faire toute diligence. S'il passa la nuit à Omaha, c'est que le premier train ne partait que le lendemain. Il le prit donc, et dans la soirée, il descendit à Julesburg Junction, près de l'endroit où la voie vient affleurer la frontière du Colorado, non loin de la South Platte River. Cette fois, en quittant Charleston, le journaliste avait eu la précaution de ne point se mettre en évidence afin d'éviter les réceptions et leurs suites fâcheuses. Toutefois, à Julesburg, il n'aurait pu conserver l'incognito, car le stage commandé attendait son arrivée en cette bourgade. Et d'ailleurs, ses partisans, accourus à la gare, comprirent qu'il ne fallait le retarder sous aucun prétexte, que les heures étaient comptées, que cette excursion aux mauvaises terres du Nebraska devait s'accomplir dans un temps rigoureux. Ils furent donc les premiers, quand ils reçurent sur le quai de la gare le reporter en chef de la tribune, à lui conseiller de partir à l'instant. Et même une douzaine de ces Anglo-Américains, qui, avec les émigrants et un certain nombre de Sioux devenus citoyens des États-Unis, composent la population nébraskienne, avaient pris leur disposition pour l'accompagner. Cette escorte n'était pas à dédaigner sur ces territoires où quelques fauves à deux pieds ou à quatre pattes se rencontrent encore. « Comme il vous plaira, messieurs, » répondit Arwis Tekimbal en serrant les mains qui se tendaient vers lui. « Mais à la condition que la voiture puisse vous contenir tous. Nos places y sont retenues, et en se tassant, » répliqua un de ses enthousiastes. Le Nebraska, par sa superficie, tient le 15e rang dans l'Union. La Platte ou Nebraska River le parcourt de l'ouest à l'est pour aller se jeter dans le Missouri à Platte City. Et c'est sa rive gauche que côtoie cette portion de l'Union Pacifique jusqu'à Julesburg Junction. État plus agricole qu'industriel, en voie de prospérité, dont la population ne cesse de s'accroître. Il a pour capitale Lincoln, une ville de l'intérieur, déclarée chef-lieu administratif dès l'année qui suivit sa naissance, et dont le port, Nebraska City, est situé sur le Missouri à 50 miles de là. En vérité, c'était une regrettable circonstance que Arwis Tekimbal, sur le territoire de la Californie et de l'Oregon, dut être contraint de faire à cheval ce trajet de Shasta à Roseburg au lieu de le faire en voiture. Ici, ce ne sont pas les prairies qui manquent à la surface de ce Great Bend nébraskien, dont Warren en 1857 et Cole en 1865 opérèrent la reconnaissance. Après que le stage eut franchi la Platte en ferryboat, après qu'il eut dépassé Fort Gwatton, il fallait le voir rouler sur ces terrains unis. C'était une diligence transcontinentale, un de ces Overland Mails de la compagnie Wells et Fargo qui parcourait autrefois le territoire fédéral, une sorte de coche peint de rouge vif suspendu sur des lanières de cuir. Rien qu'un seul compartiment à 9 places, 3 par 3 sur les banquettes d'avant, de milieu, d'arrière, et muni de bretelles pour soutenir les vaillants voyageurs. Il va de soi que le 4e partenaire et 8 de ses partisans occupaient l'intérieur du stage, quitte à remplacer les 4 autres à tour de rôle, dont 2 étaient juchés sur les sièges extérieurs, à l'arrière, et 2 près du cocher, qui poussait, bride abattue, les 6 vigoureux chevaux de son attelage. En fait de route, il n'y avait que les passes tracées par les convois de fourgons. Et en est-il besoin sur ces plaines interminables où les Wellwards n'ont eu qu'à poser les traverses? De temps en temps, se rencontraient diverses creeks aux environs des lagons Raymond et Cole, la Niobrara River, que l'on franchissait à gué, et aussi quelques hameaux où attendaient les chevaux de relais. C'est ainsi que dans la soirée du 8, après 40 heures d'un parcours favorisé par le temps, le stage arriva au district des Mauvaises Terres. Là, pas de village, rien que des prairies, où les chevaux pourraient pâturer à plein ventre. Quant à Arwis Tekimbal et à ses compagnons, il n'y avait pas à s'en inquiéter. Les coffres du véhicule étaient convenablement garnis de fines conserves, et les toasts ne manqueraient ni de whisky ni de gin. Après une nuit sous un bouquet d'arbres, la voiture fut laissée à la garde du conducteur et l'on descendit les premières rampes de la sauvage vallée. Ah, que William J. Hyperbone avait eu raison de choisir cette région du Nebraska pour en faire le labyrinthe de sa 42e case. Entre les extrêmes ondulations des rocheuses, à proximité des Black Hills, hérissées de conifères, se développe cette profonde dépression du sol, large de 36 miles, longue de 85, qui s'étend jusqu'au territoire du Dakota. De tous côtés s'étagent les cirques avec leurs 1000 pyramides, aiguilles, pinacles, clochetons de pierre. C'est bien un labyrinthe et des plus embrouillés, ce domaine des Badlands, qui, sur des milliers de milles carrés, à travers les strates, les argiles, les sables ferrugineux, dresse les fûts, les colonnes, les piliers de ces rocs prismatiques. Ça et là, on croit voir des bastions, des forts, des châteaux, dont la couleur rouge de brique tranche vivement sur la blanche surface du sol. On a pu dire de ce coin du Nord-Amérique qu'il formait un monde à part. Aussi, dans les temps préhistoriques, fut-il fréquenté par d'immenses troupeaux d'éléphants, de mammouths, de mastodontes gigantesques, dont on retrouve encore les ossements conservés par la pétrification ou réduits en poussière. Ce qui paraît une hypothèse admissible, c'est que cette dépression ait été remplie autrefois par les eaux descendues des Rocheuses et des Black Hills, depuis longtemps infiltrées dans les fissures du fond, car l'altitude de la région est considérablement au-dessus du niveau de la mer. Ce réservoir vidé serait devenu un ossuaire où les débris fossiles sont accumulés en quantité surprenante. Quant aux représentants de la faune actuelle, peu nombreux sur ce territoire où ils trouveraient difficilement à vivre, ce sont des bisons, des buffles à longs poils, des moutons à longues cornes et quelques gracieuses antilopes. Mais ce n'est pas ici que des chasseurs feraient bonne chasse. Awiste et Kimball et ses compagnons n'eurent pas l'occasion de tirer un seul coup de fusil. Au surplus, s'ils avaient emporté des armes, c'était plutôt pour se défendre contre les bandes de Dakota et de Sioux qui parcourent la région, ou pour repousser l'attaque des bandes de coyotes, ces loups de la prairie, dont on avait entendu les hurlements pendant la nuit précédente. Il n'était pas question de s'engager profondément entre les sinuosités des Badlands. Il suffisait que le quatrième partenaire se fût présenté de sa personne à l'entrée de ce labyrinthe et que sa présence eût été constatée par un acte authentique. On ne prit même pas la peine d'enfouir un document, ainsi que l'avait fait le Commodore Hurrican avant de quitter la vallée de la mort. L'acte fut rédigé par Awiste et Kimball, revêtu des 12 signatures de ses compagnons, et cela devait suffire à témoigner de son arrivée en cette région nébraskienne. Un dernier repas fut pris à l'ombre du bouquet d'arbres, et les toasts furent aussi multiples que bruyants. « Au reporter en chef de la tribune, au favori du match, à l'héritier des 60 millions de dollars de William J. Perbonne !» Décidément, Awiste et Kimball avaient lieu d'être confiants. Ses partisans ne l'abandonneraient jamais. On oubliait, on voulait oublier, que d'aller du Nebraska à Washington, c'était rétrogradé, sinon sur la carte des États-Unis, du moins sur la carte du défunt. En réalité, même lorsqu'il serait revenu à la 30e case, il n'y aurait à le devancer alors que Max Real, 44e case, YKZ 46e, Tom Queb 47e. Le campement fut levé dès 3 heures de l'après-midi. Awiste et Kimball et ses compagnons, très animés par les grogs au whisky, reprirent leur place dans et sur le stage. Le lendemain, vers 10 heures du matin, ils étaient rentrés à Julesburg Junction. 1 heure après, arrivait le train de l'Union Pacific pour un arrêt de 10 minutes. Rien que ces 10 minutes de retard, et Awiste et Kimball l'auraient manqué. Ce qui n'eût sans doute pas compromis le reste du voyage, car ils passent 2 trains par jour à cette jonction. Mais au total, ils n'avaient pas 1 heure à perdre. On sait quels états traversent la ligne en se dirigeant vers l'ouest, puisque Max Real en allant à Cheyenne, Herman Tilbury en allant à Great Lake City, le Commodore Hurrican en allant à Death Valley les avait suivis. Le reporter dut donc franchir le Wyoming, l'Utah, le Nevada, puis en partie la Californie, afin d'atteindre la capitale californienne. C'est là qu'il descendit, dans la nuit du 11 au 12 juin, frais, dispo, confiant, n'ayant égaré en route rien de sa belle performance. Un excellent accueil attendait le reporter. En grand nombre, ses partisans l'acclamèrent, mais ne songèrent pas un instant à le retenir, le train partant de Sacramento à 1 heure après-midi. Entre autres personnes, qui, par intérêt ou par sympathie, étaient venues au-devant de Awist et Kimball, figurait au premier rang le correspondant de la Tribune, Will Walter, qui lui dit « Monsieur, j'ai été informé que vous deviez arriver aujourd'hui, et je vous félicite sincèrement de n'avoir éprouvé aucun retard. » « En effet, mon cher confrère, » répondit Awist et Kimball, « pas le moindre retard entre Charleston et Sacramento, et je compte qu'il en sera de même entre Sacramento et Olympia. » « Il n'y a pas lieu de le craindre, » affirma Will Water. « Sans doute, il est fâcheux que la ligne soit momentanément interrompue. Mais le train va vous conduire à la station de Shasta, où vous trouverez des chevaux tout prêts. Un guide, connaissant bien le pays, vous mènera par le plus court à Roseburg, où vous reprendrez le Southern Pacific pour Olympia. » « Il ne me reste donc qu'à vous remercier de votre obligeance, monsieur Walter. » « Non, point, monsieur Kimball. C'est moi qui vous remercie, puisque je vous ai pris... »« À combien ?» demanda vivement le journaliste. « À 1 contre 5. »« Eh bien, cher confrère, 5 bonnes poignées de main par reconnaissance. »« Le double, si vous voulez, monsieur Kimball. Et maintenant, bon voyage. » La locomotive siffla, le train se mit en route et disparut au tournant de la voie dans la direction de Marysville, qu'il atteignit près de Feather River. Une circonstance fâcheuse, c'est que ce train ne marchait pas à grande vitesse. Il s'était arrêté à chaque station, à Ewings, à Woodlang, et il est vrai, la voie ne cessait de monter, afin de gagner cette région de la Haute-Californie d'une altitude considérable au-dessus du niveau de la mer. Le train s'arrêta à Marysville, cité qui, de même que Oroville et Placerville, est délaissée depuis que les chercheurs d'or en ayant vidé les poches, la vogue est aux mines des territoires du Nord et de l'Alaska. Seule Marysville offre quelques résistances à cet abandon, parce que sa situation, au confluent des rivières Yuba et Feather, lui assure un mouvement de batellerie qui étend son commerce sur toute la région. Au-delà, il fallut compter avec les haltes de Gridley, Nelson, Chico, Tehama, où des rampes très accentuées exigèrent de la locomotive de plus grands efforts au préjudice de sa rapidité. Bref, ce ne fut pas avant 8 heures du matin, heure réglementaire d'ailleurs, que, à la date du 13, le train vint s'arrêter à la ville de Shasta. Cette station, on ne l'a pas oubliée, à partir de laquelle la circulation était interrompue. Avant de reprendre le railroad à Roseburg, Arist et Kimball auraient à remonter d'une 100 lieues vers le nord avec le guide et les chevaux commandés par les soins du correspondant de la Tribune. Il ne restait plus que 5 jours pleins pour gagner Olympia, dont 4 devaient être employés au voyage à cheval, avec une moyenne de 24 à 25 lieues par 24 heures. À ce faire, rien d'impossible, mais grosse fatigue à prévoir, pour les montures et aussi pour les cavaliers. 3 chevaux attendaient devant la station, l'un destiné à Arwist et Kimball, les 2 autres au guide et un garçon d'écurie qui l'accompagnait. Inutile de dire que le reporter avait l'habitude de l'équitation, comme de tous les genres de sport. Le guide, nommé Fred Wilmot, était un homme de 40 ans, dans toute la force de l'âge. « Vous êtes prêt ?» lui demanda Awist et Kimball. « Prêt. Et nous arriverons... »« Oui, si vous êtes bon cavalier. Avec le stage, il eût fallu le double de temps. » « Je réponds de moi. » « Alors, en selle. » Les chevaux partirent au grand trot. De la question de nourriture, il n'y avait pas à se préoccuper, car bourgades et villages sont nombreux sur la route. Le temps semblait devoir se maintenir au beau, avec une certaine fraîcheur qui s'accentuerait dans la région montagneuse. La journée serait coupée par une halte de 2 heures, et l'on se reposerait une partie de la nuit. Le chemin suivait la rive droite du Sacramento, et après un arrêt pour le repas dans une ferme, Fred Villemot vint s'arrêter à Butter, en plein pays de sources minérales, comme il y en a tant en Amérique. 7 heures de sommeil dans une auberge, et les voyageurs repartirent dès l'aube pour aller déjeuner à Eureka. À une centaine de milles dans l'est, on eut rencontré le Shasta, dont le cratère s'ouvre à plus de 12 000 pieds entre deux sommets. Solidement assis sur sa base, que découpent des ravins verdoyants, ce mont est considéré comme le plus beau des États-Unis, avec ses laves roses émaillées de glace, a dit un enthousiaste voyageur. Awist et Kimball dut remettre son admiration à un autre voyage. Un grand état, cet Oregon, le 9e des États-Unis. Faible de population, il possède de vastes pâturages et son principal rendement vient de la pêche du saumon, très fructueuse dans ses cours d'eau. En outre, l'extrême fertilité des terres dans l'ouest les fait rechercher pour les établissements agricoles. Pendant cette journée, Awist et Kimball eurent les yeux réjouis par la contemplation de sites magnifiques. Un regard en passant, c'était tout ce qu'il pouvait leur accorder, à son vif regret. En lui, le touriste s'effaçait devant le partenaire. Le soir, ayant franchi la passe de Pilot Rock, hommes et bêtes, pas mal éreintés, vinrent prendre repos à la bourgade de Jackson, qu'il ne faut pas confondre avec ses homonymes des États-Unis. 4 Jackson au Michigan, au Mississippi, au Tennessee et dans l'Ohio, et 2 Jacksonville, l'une dans l'Illinois, l'autre dans la Floride, à plusieurs milliers de miles de la Californie. Le lendemain, 16, après une dernière journée que les chevaux enlevèrent sans trop de peine et dont la seconde étape se prolongea jusqu'à près de minuit, le guide signala les lumières de Roseburg. Ainsi s'était effectué ce cheminement. Pas un accident, pas même un incident, avec la régularité d'un express. Ni les remerciements, ni les dollars ne furent ménagés à Fred Willmot, et le lendemain, dès l'aube, Awist et Kimball sauta. Le mot est employé par le correspondant de la Tribune. Dans le premier train en partance pour Olympia. Ce train dessert les principales villes ou bourgades de cette riche vallée de la Willamette. Winchester, Eugene City, Harrisburg, Albany, Salem, la capitale de l'État, fraîche corbeille de fleurs et de verdure. Camp, Oregon City, la plus industrieuse, grâce aux puissantes chutes qui actionnent ses papeteries, ses sucreries et ses filatures. Portland, peuplé de 75 000 habitants, qui tient la tête du commerce oregonais et dont la Columbia fait un port de mer d'une grande activité. Enfin, le train franchit cette rivière qui sépare l'Oregon du Washington et vint s'arrêter sur la rive droite en amont du confluent de la Willamette à Vancouver le 18, 8 heures du matin. Awist et Kimball ne disposaient plus que de 6 heures. Mais n'était qu'à 120 miles d'Olympia. Ah, si le temps ne lui eût manqué, comme il aurait pris plaisir à visiter en détail cet Oregon qu'il venait de quitter, ce Washington où son pied venait de se poser pour la première fois. C'est un état de 350 000 habitants, en pleine prospérité, si éloigné soit-il à cette extrémité du territoire fédéral, auquel il n'a été rattaché qu'en 1859, et dont il occupe le 18e rang. Il a Olympia pour capitale, où peuvent remonter les navires par le Puget Sound. Mais Seattle l'emporte par l'étendue de son commerce, et Tacoma par son trafic avec le Japon et la Chine. Cette dernière née de la famille washingtonienne donne les plus belles espérances pour l'avenir. Ce fut de Vancouver. Bien entendu, la ville de ce nom du Washington et non celle de la Colombie anglaise, située à une centaine de milles plus au nord, que Awist et Kimball partit à 8 heures du matin afin d'accomplir la dernière étape de ce voyage. Aucun obstacle, aucun retard à craindre. 9 stations et le train arriverait, un peu après 11 heures, en gare d'Olympia. Holbrook, Warren, Calama, Stockport, Sopena, Chelis, Centralia furent laissés successivement en arrière. Le train filait assez rapidement à la surface de cette région arrosée par les nombreux affluents et sous-affluents de la Columbia. Enfin, il était 11h03 lorsqu'il s'arrêta à la petite bourgade de Tenino, séparée de la capitale par une distance de 40 miles, une quinzaine de lieues environ. Là, fâcheuse nouvelle pour les voyageurs et désastreuse pour Awist et Kimball. Un accident que le minutieux bicorne de la tribune n'avait pu prévoir. Impossible au train d'aller au-delà de Tenino. À 10 miles de cette station, un pont s'était écroulé une heure avant et la circulation avait dû être arrêtée sur cette partie de la ligne. Coup mortel s'il en fut jamais et dont le quatrième partenaire ne se relèverait pas. « Maudite guigne ! » s'écria-t-il en se précipitant hors de son wagon. « Tu me fais périr au port !» Eh bien non, et peut-être allait-il s'en tirer. Trois jeunes gens, descendus du train, s'approchèrent de lui. « Monsieur Kimball, lui dit l'un d'eux, savez-vous monter à bicyclette ?»«
Oui. »«
Venez donc. » Il n'y eut pas d'autres paroles échangées. On le voit, c'était entré carrément en matière, comme il convient entre ces gens pratiques des États-Unis. Ce n'était pas une bicyclette, mais bien une triplette qui fut retirée du fourgon de bagages et déposée sur le quai de la gare. « Monsieur Kimball, dit le jeune homme, l'un de nous va vous céder sa place au milieu. L'autre se mettra derrière, moi je me mettrai devant. Et il y a des chances d'arriver pour midi à Olympia. »
« Vos noms, messieurs ?»
Will Stanton et Robert Flock.
Et le vôtre à vous, monsieur, qui me cédez votre place?
John Berry.
Eh bien, messieurs Stanton, Flock et Berry, merci.
Et en route, et que Saint-Cycle, le patron des bicyclistes, nous protège.
15 lieues en moins d'une heure. Ce record n'était pas encore détenu par aucun professionnel. Avant de démarrer,
messieurs, dit Arwist et Kimball. « Je ne sais comment je pourrais reconnaître... »«
En gagnant !» répondit simplement Will Stanton.
« Nous avons parié pour vous !» ajouta Robert Flock.
La triplette était une machine sortie des ateliers de Comden & Co. de New York, pourvue d'une multiplication de 27 pieds 2 pouces et qui avait fait ses preuves dans une lutte internationale, précisément sur le vélodrome de Chicago. Ces illustres bécanards, Will Stanton et Robert Flock, originaires de Washington, étaient des staillés de la vélocipédie, ayant les meilleures performances et capables de tout le rendement que peut donner ce genre de sport. Awist et Kimball, montés sur la selle intermédiaire, n'auraient eu qu'à se laisser conduire, mais il entendait bien ajouter sa puissance musculaire à celle de ses entraîneurs. C'est le mot. Et pédaler pour son propre compte. Will Stanton s'acheva là, en avant, Robert Flock en arrière, Awist et Kimball entre les deux. Quelques personnes obligeantes, qui maintenaient la machine sur la route, lui imprimèrent un vigoureux élan et elle s'élança, saluée de bruyants hurrahs. Ce départ fut magnifique. Le rapide véhicule allait comme un tonnerre graissé. Expression bien américaine. Sur un chemin soigneusement entretenu, une véritable piste de vélodrome, moins les virages, et très plat en cette partie du Washington qui avoisine le littoral. Les trois cyclistes ne parlaient pas, la bouche fermée, les lèvres entrouvertes par un tuyau de plume, qui, sans permettre à l'air d'arriver trop brutalement aux poumons, aidait cependant la respiration par le nez. Et c'est ainsi qu'ils n'hésitèrent pas à emballer dès le début de cette course vertigineuse. Les roues de la triplette tournaient avec la vitesse d'une dynamo mue par un puissant moteur. Et cette fois, le moteur, c'était ces trois hommes, dont les jambes, transformées en bielles, poussaient l'appareil de toute leur vigueur. La triplette entraînait avec elle un nuage de poussière, et lorsqu'elle franchissait à gué quelques couics, soulevait une nappe d'eau qui se recourbait sur ses jantes.
L'avertisseur lançait au loin des sons pour s'assurer la route libre, et les gens se rangeaient sur les côtés afin de livrer passage à cette machine éclair. Enfin, après le premier quart d'heure, ainsi que le dit Will Stanton qui comptait les bornes militaires, les 5 premières lieues avaient été enlevées, et il suffirait de conserver cette moyenne pour atteindre le but quelques minutes avant midi. Il ne semblait donc pas qu'aucun obstacle pût surgir. Quand, un peu après 11 heures, alors que la triplette traversait une vaste plaine, se firent entendre de furieux hurlements. Un cri s'échappa de la bouche de Robert Flock, qui laissa tomber son tuyau de plume.
« Des coyotes !»
Oui, des coyotes, une 20aine de ces redoutables loups de la prairie. Enragés de faim, sans doute, ces farouches animaux s'approchaient avec une vitesse supérieure à celle des cyclistes et se jetèrent sur leurs flancs. « Vous avez un revolver ?» demanda Will Stanton, sans ralentir un instant la triplette. « Oui, » répondit Arwist et Kimball. « Tenez-vous prêt à faire feu. Toi aussi, Flock, avec le tien. Moi, je ne lâche pas la direction. Continuons à pédaler tous trois, et peut-être devancerons-nous cette bande. »
La devancer?
Il fut bientôt évident que cela ne serait pas possible. Les coyotes bondissaient en suivant la triplette, prêts à se précipiter sur le reporter et ses compagnons, qui seraient perdus s'ils étaient renversés. 2 détonations éclatèrent, et 2 loups, atteints mortellement, roulèrent sur la route en hurlant. Les autres, au comble de la fureur, s'élancèrent sur la machine, laquelle ne put éviter le choc que par un crochet brusque qui faillit désarçonner Arwist et Kimball.
« Pédalons ! Pédalons ! »
cria Will Stanton. Et les jarrets se détendirent avec une telle vigueur que les dents de la multiplication craquèrent à faire craindre qu'elles ne fussent brisées. Pendant le second quart d'heure, 5 autres lieues avaient été franchies. Mais il fallut plus que jamais repousser les coyotes qui sautaient au moyeu des roues et dont les ongles grinçaient sur les rayons de fil d'acier. Les revolvers furent tirés jusqu'à leur dernière cartouche et la bande, réduite de moitié, laissa une 10aine de loups en arrière. À ce moment, Arwist et Kimball, abandonnant la barre, parvint à recharger son revolver dont les 6 coups mirent les coyotes en pleine déroute. Il était alors 9:50. À 2 lieues environ apparaissaient les premières maisons d'Olympia. La triplette dévora cette distance avec la vitesse d'un express. Elle atteignit la ville, et en dépit des règlements de police, au risque d'écraser quelques-uns de ses 5000 habitants, elle s'arrêta devant le post-office, comme midi commençait à sonner. Arwist et Kimball prit air. N'en pouvant plus, respirant à peine, il fendit la foule des curieux qui attendaient l'arrivée du 4e partenaire et se précipita dans la salle au moment où l'horloge tintait pour la 10e fois. « Il y a un télégramme pour Arwist et Kimball !» cria l'employé du télégraphe.
« Présent !»
répondit le chroniqueur en chef de la tribune qui tomba sans connaissance sur un banc. Le protégé de Saint-Cycle était arrivé à temps, grâce au dévouement et à l'énergie de ses compagnons. Quant à messieurs Will Stanton et Robert Flock, avec 15 lieues parcourues en 46 minutes et 33 secondes, ils battaient le record de vitesse des 5 parties du monde.